Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 40e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec le médicament Questran. Ça se ressemble pas tant que ça. Questran est un hypolipémiant visant à baisser le taux de cholestérol, tandis que Divan Quest n'est évidemment pas un médicament, mais on suggère quand même de consulter un médecin si on vous donne une érection qui dure plus que 3 heures.
Hey!
Bonsoir, je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Revel.
Salut!
Et de, de pas Jeff.
West Jeff.
And here's your host, Anthony Wiggles. Hello everybody, welcome to...
Alors, on est le 20 février 2017, journée mondiale de la justice sociale qui coïncide cette année avec le President's Day aux États-Unis.
Yes.
Alors, on aimerait saluer les gens qui ont on aimerait saluer les gens qui ont une appréciation de l'ironie, car c'est probablement les seuls qui ont de quoi célébrer aujourd'hui.
Mais c'est bon quand même, j'avoue que ça devient la journée internationale de l'ironie, on aime quand même ça un peu.
Comment ça va, Dan?
Mais ça va bien, ça va bien.
Qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine?
Ben, j'ai joué à un jeu qui est très très connu des enseignants, qui s'appelle La fin d'étape.
Oh, ok.
Mm. Ouais, ça. Fait que j'ai pas joué à grand-chose, hein? J'ai pris beaucoup de mon temps pour finir ça.
Mais c'est souvent un défaut des jeux, des fois, tu sais, quand tu mets vraiment beaucoup d'efforts, tu grindes beaucoup, puis y a pas de payoff, t'as pas de récompense à la fin, là.
Ouais. C'est triste, hein? Mais c'est comme ça.
Fait qu'on lui donne deux pattes de divan à la fin,
la fin des temps. Mais sinon, tu sais, j'ai quand même fait des trucs pendant
et
la
les deux autres pattes, on les a dans le cul. OK.
Comment ça de même, toi? Bang.
Ouais.
OK.
Vas-y.
Attends, je veux. Faut que je me replace. Je suis mal à l'aise.
Faut que je me replace la patte de divan.
Oui, mais sinon, un bon matin, un matin de fin de semaine, là, quand tu sais. Tu te sens comme un enfant, tu décides de te mettre en pyjama puis d'écouter des petits bonhommes.
Ça arrive tout le temps.
Ben moi, ça m'arrive quand même. j'ai un petit côté comme ça. J'ai décidé d'essayer Steven Universe.
Oh, ben
que
oh.
J'avais pas encore essayé.
Mm-hmm.
Puis tu sais, j'en avais entendu parler. Puis je suis comme, oh, on va essayer ça. Puis c'est quand même
fait
nice.
Qui fait partie de la trinité. Bon, en fait, non, ce sont quatre. Les quatre cartoons que les adultes geeks aiment bien. Là.
Ouais.
Donc Steven Universe, Gravity Falls. Rick and Morty et Adventure Time.
Fait que c'est ça, j'ai deux parties qui étaient déjà faites. Il me reste deux autres parties à découvrir. Là, il m'en reste juste une. Ouais, fait que Steven Universe, quand même beaucoup aimé ça. Là, au niveau des dessins, pour ceux qui n'ont jamais vu, ça a une certaine ressemblance avec les dessins de Brian Lee O'Malley, qui a fait Scott Pilgrim. C'est quand même comme une parenté, si on veut. Puis, bon, c'est l'histoire de Steven Universe là, qui va remplacer sa mère dans une team d'héroïnes, donc filles, qui ont des pouvoirs parce qu'ils ont une gemme dans leur corps. Là. Une pierre précieuse. Fait que lui, c'est un petit baquet qui arrive pas vraiment à contrôler sa gemme, en tout cas au début. Puis, mais qui tripe sur les fries bits. Là, il va voir le gars qui fait des frites, puis il veut les fries bits là, qui restent
dans la friteuse. Ah, sacrifice, les mottons trop cramés dans la friteuse.
Bref, c'est assez comique, mais c'est le fun à écouter. Puis, j'ai un petit crush sévère sur la toune thème que j'arrive pas à me sortir de la tête. Fait que je vous la partage, puis vous m'enverrez des bêtises. Là.
Are the crystal gems will always save the day?
Très, très whimsical.
Ah, c'était carrément. Bref, c'est pas mal mon fun. Je joue un tout petit peu, sinon, à WWE 2017, là, 2K17. Pas grand-chose à dire pour l'instant. J'ai pas joué tant que ça, fait que je saurais pas trop quoi dire de si intéressant que ça. On verra s'il y a de quoi à faire un segment ou au moins un cette semaine plus tard. Mais j'ai commencé à jouer à ça un petit peu.
Good.
Puis j'ai joué aussi en fin de semaine au merveilleux jeu du service à la clientèle d'Amazon.
Colique, ça aussi c'est pas gros de pâte de divan. Hein?
pas trop, non, pas trop. Pour faire une histoire courte, on avait précommandé un jeu, toi et moi, qui avait comme, je sais pas, là, des rabais imprévus qui s'appliquaient sur la facture.
Clairement une erreur de quelqu'un chez Amazon Canada, mais on s'en plaignait pas.
Puis on commande les jeux, puis là, on se rend compte, en fin de semaine, je me rends compte que hop, il est comme plus cher que ce qu'on avait commandé. En fait, probablement que ce qui est arrivé, c'est que le prix a baissé. Fait que les rabais en proportion ont baissé, genre.
Ouais.
En tout cas.
Ça tient pas à route, ça, que le prix augmente, quand le prix baisse, les prix demeurent proportionnels. Bon, hein? Bref, on se faisait fourrer.
Bref, ça marchait pas. Fait que, écris un courriel à Amazon. j'ai une réponse. Tu sais, puis je fais mon gros possible. Là, j'ai quand même un anglais assez fonctionnel, mais des fois, dans les petits détails, je pense que mon vocabulaire n'est peut-être pas si poussé. Enfin, j'ai ça, mon gros possible pour expliquer. J'ai une réponse comme bien générique qui dit que le prix a baissé. Oui, je sais que le prix a baissé, mais genre, check ma facture, le champion, parce que c'est là que ça ne marche pas. T'sais. Fait que réponds ça dans la chose, mais tu peux pas répondre par courriel. Faut que tu retournes par le site. Là. Gros plaisir. T'sais. On aime ça quand c'est simple, ça a l'air. Fait que j'ai fini par avoir une réponse d'un gars qui dit on a envoyé ton truc au département de marketing, puis. 10 minutes plus tard, le même dude qui me répond « Ah, le département de marketing veut que tes appels, fait qu'il m'envoie le lien pour le click to call. » OK! Là, j'étais sur le bord de tout abandonner. OK, rendu là, on va le faire. Fait que, pong le click to call, clique dessus. C'est sur Amazon.ca. Je me rends mon numéro de téléphone. Ça prend même pas une minute, le téléphone sonne, tu sais. Mais là, je parle à quelqu'un. Puis je demande plus tard du service en français. Je me dis Amazon.ca. La fille a dit non, je parle en espagnol. C'est espagnol.
C'est comme félicitations, Asti.
Bravo, moi, je parle pas espagnol. J'essaie d'expliquer en anglais pour finir par comme à rendre mes informations. Tout, puis elle dit ben, il n'y a pas d'activité sur votre compte. Il n'y a pas d'activité sur mon compte. Je rouvre Amazon. Genre, j'ai comme 12 commandes qui viennent d'être faites, plus comme des précommandes pour la Switch qui s'en viennent. Puis ça marche pas. Êtes-vous sur Amazon, mon compte Amazon.ca? La fille, ben non, vous êtes Amazon.com. Mais pourquoi je suis Amazon.com? Moi, j'ai cliqué sur un lien d'Amazon.ca, puis j'ai mon numéro de téléphone. La fille finit par essayer de. J'ai essayé d'expliquer mon affaire, puis là, complètement qu'elle comprenait pas mon problème, parce que je faisais mon possible, mais c'est quand même une affaire touchée, là, puis ouais. Un peu weird. Fait qu'elle finit par faire je vais vous transférer à Amazon.ca.
T'as un piton sur ton téléphone, transfère à Amazon.ca, ouais, puis tu me niaises depuis 10 minutes.
Je pense que c'était pas si facile que ça. Il n'y avait pas un piton sur le téléphone, transfère à Amazon.ca. Fait que là, tu vois qu'elle me gossait, puis elle me demande puis comment aime la météo. Genre, hey, là, non, là. Genre, ah, il neige. C'est dimanche, il neige. Elle fait, ah, il neige. Ouais, oui, il neige.
Je suis au Canada, là, genre, grosse crise de surprise.
Yeah, là, pendant que tu me parles, j'ai rien de gosser sur mon bonhomme de lutte, là, de toute façon, sur mon jeu. Là, fait que. Fuck le small talk, le transfère-moi. Finit par être transféré, demande à être servant en français, parle à une fille qui finit par gosser un peu puis qui me répond ben, tu vas avoir le meilleur prix, comme all the way, fait que quand il va être chargé, c'est l'autre prix qui devrait être chargé, même si c'est pas ce qui apparaît sur le site. Puis je t'envoie une email de confirmation pour te confirmer ça. Fait que à suivre quand le jeu va shipper en avril, j'imagine.
Yeah, j'ai déjà out.
Ben, au pire, on va leur sacrer dans la poste puis leur renvoyer. C'est tout. Fait que ouais, j'avais le goût de le raconter parce que c'est le fun de sacrer après une compagnie qu'on aime puis qu'on aime pas en même temps. Là.
Non, on l'aime jusqu'à temps qu'on l'aime pas.
Moi, ouais, c'est ça. Mais je vais continuer de l'aimer la prochaine fois que je vais vouloir comme m'acheter des batteries puis qu'ils vont me le shipper le lendemain parce que je suis prime, genre.
t'es prime, genre suis... dans la vie ou t'es membre prime?
Ah, les deux sens.
OK.
Toi, Matt, ça fait de bon?
J'ai reçu la version numérique de mon premier volume de Nintendo Force Magazine. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ça, et c'est fort probable, c'est un groupe de journalistes, d'éditeurs et juste de fans de Nintendo Power qui ont pris le relais quand Nintendo Power est tombé et ils ont créé le Nintendo Force Magazine. Vraiment dans le but d'offrir le même genre de produit. Donc, des beaux articles sur des jeux qui s'en viennent, les fameux posters des milieux de chacune des revues Nintendo Power qu'on avait. Puis bref, c'est juste comme une grosse lettre d'amour à ce qu'a été Nintendo Power pour tellement de monde à travers toutes ces années-là. Puis je me suis abonné justement le mois dernier. Fait que là, la première édition qui tombait à concorder avec mon abonnement sortait là. C'est vraiment une belle revue. C'est vraiment construit dans l'idée que toute l'information... Tu peux pas sortir un magazine aujourd'hui pour informer le monde. Là. Ça se peut juste pas. Là, l'information est disponible immédiatement. Là, fait qu'en dedans d'une seconde, est trop tard ton info. Fait que tu peux pas publier quelque chose. Puis,
D'où la dispersion de tous les magazines porno des dépanneurs.
Ah oui, parce que tu une paire de totons. C'est passé date après...
Non, mais Internet pareil.
Ben voilà. Non, mais c'est ça. Fait que bref, ils sortent un... Ils savent que c'est forcément un objet que tu veux, comme regarder les layouts. Il faut que ce soit visuellement hyper attrayant. Ça devient un coffee table book, là. Les fameux livres que tu laisses traîner parce que ça attire l'œil puis c'est le fun de...
Puis ce qui est intéressant, contrairement au dernier coffee table book que tu as parlé, là, celui d'Apple, il ne coûte pas comme 400 piastres, genre.
Non, c'est vraiment hyper abordable. Là. Pour avoir la copie physique chipée par la poste et la version numérique, ça coûte comme 6,99 US, ce qui est très sympathique. Puis non, c'est vraiment une belle édition. J'ai hâte d'avoir la version physique, bien sûr, pour justement browser ça en faisant ce que j'ai à faire. Et Puis ils faisaient même un concours. En fait, pour l'édition qui vient d'être passée, qui est maintenant trop tard, ils font tirer une Switch. Mais ils vont faire tirer une seconde pour la prochaine édition. Donc, s'il y en a que ça intéresse. Puis si vous avez déjà la Switch au moment où vous gagnez, ben ils vont donner l'équivalent en jeu.
Mais là, attends, là. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est un concours et que les résidents du Québec sont pas barrés?
Ouais, ils ont l'air de complètement s'en coller ici.
C'est
la bonne technique pour pouvoir participer, c'est de l'ignorer complètement.
De ne pas le savoir.
Et de ne pas être assez gros pour que la régie te fasse chier avec ça. Donc, Nintendo Force Magazine, je le recommande, c'est vraiment un beau passion project. Puis pour ce que ça coûte, là, ça va à peine. Ensuite, j'ai appris récemment que il était une fois la vie. La série de notre enfance sur le corps humain.
Je continue de présenter à mes élèves.
Ben, tu vas être content de savoir que France 4 ont remasterisé la série au complet, en corrigeant aussi des erreurs factuelles.
Donc,
la fameuse « Il était une fois la vie », là, qui était dans la série de « Il était une fois l'homme », puis « Il était une fois l'espace ». C'est ça, ils l'ont remasterisé. Un peu triste, par contre, que parce qu'ils rendent disponible en fait tout le contenu sur ludo.tv, pas disponible en dehors de la France. Fait qu'on peut pas aller le chercher comme ça légalement. Mais bon, on va quand même réussir à mettre la main là-dessus. Ce n'est qu'une question de temps. Mais c'est quand même cool de savoir que c'est encore...
Disappointed!
T'es partiellement... partiellement déçu. Et aussi, du même souffle, carrément, on va avoir aussi le bus magique.
Un reboot sur Netflix, je pense.
Je me sens que c'est Netflix, mais bref, on va avoir des nouveaux épisodes. Ça, c'est carrément du nouveau contenu, pas juste des corrections et remasterisées. Mais c'est le fun de voir justement du contenu éducatif, parce que je suis pas quelqu'un qui écoute la télé, là, fait que ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais je pense que même nous, quand on était rendu adolescent, le contenu éducatif était beaucoup moins présent à la télé. Fait que de voir ces trucs-là, puis même tout dans le cas d'Il était une fois la vie, là, ça va servir à ce que les parents qui ont notre âge. Ben oui. Pang le kid font hey, check ça. Genre,
ce qui est trippant pour Il était une fois la vie, on s'entend. Moi, je suis au secondaire. T'sais, fait que le niveau d'explication est quand même bas pour le secondaire. Premier cycle, ça gère. Mais t'sais, sauf que tu peux prendre un épisode, mettons celui sur la cellule, puis je pourrais le montrer à des secondaires 4 qui font leur science forte, puis tout est là. L'explication n'est pas là audio, mais visuellement, je peux tout expliquer mon concept parce que tout est là. Tout est là.
Mais j'avais trouvé ça intéressant. J'avais trouvé ça vraiment cool. Il y a un site, c'est vousnousil.fr qui parlait justement du retour de cette série-là. Mais c'était pas juste comme un blurb de nouvelles qui disait « Ah, ça revient ». Il parlait justement de la valeur éducative de ça, puis qui disait même si le côté narratif pouvait comme cacher le message, etc., c'était beaucoup plus engageant, puis ça aidait aussi les jeunes quand tu as parlé d'un concept, ils visualisaient.
Ouais, c'est ça.
Ça les aidait comme à mettre tout ça en ligne, parce qu'en général, le concept était quand même présenté de façon à ne pas contredire la réalité quand il y avait des petits personnages, etc. Mais bref, le retour de Il était une fois la vie et du bus magique.
Et du bus magique, dans la même semaine.
À peu près. C'est ça, à peu près. Et finalement, ben, vu que Jeff n'est pas là, on cherche à faire du temps. Fait que je vous ai parlé la semaine dernière de Tim Fallon et du Tim de Pictionary. Ouais. Et il torche en crise, je leur fais jouer.
Yes.
Les sites de nouvelles de jeux vidéo ont eu la tâche facile pour attirer des clics le 10 février dernier, alors que Konami nous servait une annonce lors du JAEPO 2017, qui est le Japan Amusement Expo, comme seuls eux savent le faire. Et oui, c'est le retour du Konami Watch.
Yeah.
Konami, cette fois-ci, comme c'est souvent le cas, nous arrive avec quelque chose qui semble être une bonne idée. Il nous annonce le retour de Bomberman dans les arcades au Japon. Pour la première fois depuis 1997. Et dans un format permettant de jouer jusqu'à 8 joueurs en 4 contre 4. Et pour célébrer ce retour, Konami décide de faire une version toute féminine de la formule. Bomberman devenant donc Bomber Girl et remplaçant le traditionnel éventail de personnages de la série par une toute... par toute une brochette, en fait, de Bomber Chicks.
Tu dis brochette de Bumblebee Chicks.
Ouais, ben, dans un look assez typiquement anime japonais. OK? Avec des portraits dessinés accompagnant les modèles 3D qui sont quand même un peu plus mignons là, que le jeu utilise. Fait que jusque-là, bon, ça pourrait être imaginable de voir la tentative d'offrir quelque chose de nouveau pour ceux qui sont moins familiers avec la série, puis éviter d'offrir Bomberman 232, là, qui est un petit peu intimidant pour les nouveaux joueurs. Mais en naviguant les images fournies par Konami, on remarque qu'il semble y avoir un autre feature à cette, à cette adaptation, les vêtements destructibles. On peut effectivement voir plusieurs portraits de Bomber Chicks qui doivent apparaître après avoir perdu un round, avec les vêtements en lambeaux, révélant plus de peau que nécessaire, mais n'empêchant pas la pauvre vaincue de prendre une pause, l'avantageant bien sûr. Fait qu'on a beau être en février, je pense qu'on peut affirmer immédiatement que ce sera pas l'année de la renaissance d'économie. Hein? Désolé. Je tiens quand même à les applaudir d'avoir réussi à nous surprendre. Je pense pas qu'il y a grand monde qui s'attendait à de quoi de plus épais que la machine de pachinko de Castlevania qui annonçait de la erotic violence. Ben, mission accomplie, Konami.
Yeah.
Ensuite, le site de nouvelles technologiques favori de tous les fans de football.
La Verge.
Bien sûr. Nous annonçait la semaine dernière que Apple venait de rejoindre le Wireless Power Consortium. Ce consortium, comme son nom l'indique, regroupe des acteurs majeurs du monde de la technologie tels que Samsung, Asus, Canon, Lenovo, Nokia et bien d'autres pour informer le standard QI qui permet la recherche d'appareils... La recharge, dis-je. D'appareils sans fil. C'est un peu surprenant parce que le standard QI a connu beaucoup plus de bas que de hauts au cours des dernières années, apparaissant dans de moins en moins de produits des différentes compagnies. Un de ses gros avantages, en fait, c'était qu'il pouvait être intégré nativement aux appareils. Puis là, il y a de moins en moins de produits qui font ça. Fait qu'évidemment, si Apple s'y intéresse, soudainement, il devrait y avoir beaucoup plus de gens qui s'y intéressent puis qui en vendent ses mérites parce que c'est donc bien une bonne idée. Tu sais.
Apple l'a fait.
Ben voilà. Mais ça reste une décision intéressante, par contre, de voir Apple rejoindre un standard établi plutôt que de tenter de créer le sien. Hein?
Quand même.
Ainsi que la panoplie d'accessoires overpriced pour aller avec, comme d'habitude. Par contre, ça va devenir difficile pour Apple de garder son image de compagnie innovatrice dans le domaine quand tu peux aujourd'hui même déjà aller chez IKEA et t'acheter pour 20$ un case pour rendre ton iPhone compatible QI. Ah, IKEA, ce grand innovateur en technologie mobile de pointe.
Entre ça et une bibliothèque.
Entre une bibliothèque Billy de 6 pieds à 49$ avec le fond en carton, tu peux t'acheter un case pour ton iPhone.
Avec le fond en carton?
L'histoire ne la dit pas. Ensuite, dans le but de sembler moins cynique, vu que mes deux dernières nouvelles, mettons, c'était pas exactement uplifting. Là. Ouais. Et dans le but de, encore une fois, faire du temps à l'absence de Jeff, je vais vous présenter un extrait de l'œuvre du YouTuber James Nielsen. Une pièce célébrant le début des années 2000 pour nous rappeler à quel point on s'ennuie pas tant que ça de cette époque-là. C'est le fun, puis ça fait mal en même temps.
Les deux, c'est le fun. Il y a un beau petit combo.
Bon, continue les nouvelles. Le 9 février dernier, on apprenait que Facebook a engagé Mina Lefebvre, la vice-présidente exécutive de MTV, pour s'occuper du développement du contenu scripté et non scripté pour Facebook. On la connaît pour avoir assisté à la création de monuments de la télé tels que Faking It, Awkward, Finding Carter, Scream, Teen Wolf, Nicole Byer, Mary plus Jane. Et probablement beaucoup d'autres dont on se calisse autant que ceux-là. Mais si MTV est comme Music Plus, une chose est sûre, en engageant Mme Lefebvre, il devient évident que le futur de Facebook n'est pas dans le contenu musical.
T'es comme cynique aujourd'hui.
Ça
va bien. Hein?
Je suis un petit peu amer. Non, je peux pas être amer avec All-Star de Smash Mouth en son de Windows, voyons donc.
Tu manges des endives, quelque chose derrière moi.
C'est pour pour ma régularité. Et finalement, Netflix a annoncé la liste de son nouveau contenu à paraître pour 2017. Et cette liste incluait une série animée pour public adulte basée sur la franchise Castlevania. La série est produite par Adi Shankar, qui n'est pas un personnage très discret. Donc, si vous voulez vous amuser, allez le suivre sur Twitter. La série sera également produite par Kevin Cold, qui produit Adventure Time. Et les deux premières saisons sont scénarisées par Warren Ellis, auteur et scénariste de BD adoré par les internets pour plein de raisons que je ne suis pas exactement certain que quelqu'un pourra me dire en criant par courriel, je vous en prie. Shankar ne se gêne pas pour garantir personnellement que la série mettra fin à la série de mauvaises adaptations de jeux vidéo et en sera même la première bonne. Il a même mentionné Game of Thrones et Lord of the Rings comme des exemples de ce qu'il souhaite accomplir avec la série. Comme je disais, là, très discret et réservé, ben Monsieur oui, Shankar.
Il vise bas aussi, là, oh, pour ne pas se planter.
Excessivement humble. Mais avec tout ça, par contre, Monsieur Shankar n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue et on ne sait donc toujours pas si la série va inclure du pachinko ou de la violence érotique.
C'est triste parce que c'est ce qu'on veut savoir.
Et on vous tient au courant des développements.
Et oui!
Le moment t'as attendu.
Le moment t'as attendu, le retour du Google Blender coming soon dans l'univers de Divan Quest. Donc, pour les semaines du 20 février au 5 mars, je commence ça. Avec un jeu qui sortira le 21 février, un jeu qui sortira au PS4, PC et Vita. Je donne des indices, mais en tout cas. Donc, j'y vais avec la description. 700 ans avant les événements des deux premiers jeux, le terrain était sur le bord de la destruction. Mass Devils est forcé deux sujets féminins qui ont gouverné le fouet et le visage, sécurisés dans l'étreinte du nuage. Les démons ont continué à construire une immense tour dans le mouvement. Match se développe sur le terrain, a commencé à augmenter au cours de la deuxième ronde. Je sais plus.
Y a-t-il une expansion de Destiny, quelque chose?
Non, c'est Ease Origin.
Oh, pour vrai? Pour vrai, OK. Ben, c'est un bon jeu, c'est nice.
Ben, c'est ça que je me disais, c'est pour ça que j'ai choisi ben pour oui, toi. Mais
je l'ai sur PC depuis longtemps, puis je le recommande, là, mais...
Ouais, oh. Voilà, fait qu'il sort sur PS4, sur Vita.
Oh, cool.
Là. Mais je suis pas sûr de comprendre. Non. Mass Devil est forcé deux sujets féminins. Là, alors, malheureusement, non, c'est une mauvaise réponse.
Ah, excusez.
J'y vais avec le 3 mars. Un film dans un avenir proche est une marque bienveillante fatiguée pour un enseignant malade dans un refuge à la frontière mexicaine.
Sacrifice.
Mais les tentatives héros pour cacher du monde et de son patrimoine ont pris fin quand un jeune mutant arrive poursuivi par des forces obscures.
La cérémonie d'assermentation de Donald Trump?
Ah, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est le synopsis du film Logan.
Aïe.
Ouais.
Aïe.
Ouais. Et j'y vais pour ma préférée. On est toujours le 3 mars dans l'univers du jeu. En plus de l'expérience dans une maison spéciale multijoueur, système d'embrayage permet également aux joueurs de jouer de la même façon partout et quand ils parlent de vous. Marcher sur un appareil de poche... je l'avais comme pas relu à voix haute, là. Marcher sur un appareil de poche est maintenant ajouté au carburant pour concurrencer dans la maison. Ne devait pas permettre à de nouveaux styles de jeu.
Est-ce que c'est la sortie de la Switch?
C'est la sortie de la Switch!
Yay!
qu'on appellera maintenant système d'embrayage.
Ah ben j'aime bien marcher sur la sortie de la poche.
Marcher sur un appareil de poche est maintenant ajouté au carburant pour concurrencer dans la maison.
C'est ça je disais là.
C'était ce qui s'en venait dans l'univers des Divan Quest.
On mérite pas! On mérite pas! On mérite pas! On est tout petit! On est à chier!
C'est le fameux moment dans l'épisode qu'on prend pour remercier tous ceux qui acceptent bien de donner quelques sous sur Patreon et que tout le reste du monde se calisse complètement d'entendre.
Ben oui.
Et voilà. Comme on l'a mentionné lors du dernier épisode, dans les prochaines semaines, on va avoir un épisode disponible d'avance pour nos Patreon.
Oui, c'est question d'attendre que Jeff soit là, tu sais, quand même. Là.
Ouais, voilà, on le ferait pas sans.
Patreon paye pour trois, donc on leur a donné trois.
Il y a clairement une partie de ce montant-là qui est pour son travail, je pense.
J'imagine.
Bon, oui, voilà. Fait que, ben, merci à tous nos Patreons.
Eh oui. C'est drôle, j'ai écouté Wayne's World cette semaine dans une nuit d'insomnie. Fait que je repensais aux Patreons en écoutant Wayne's World, vois-tu?
Quand on pense tout le temps à vous autres.
Juste ça, tout le temps.
Des fois, quand on est habillé.
Des fois, pas. Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, le 20 février. Faudrait demander genre à Charles Tissard d'enregistrer ça, quelque chose. Je commençais en 1816 avec la première du barbier de Séville à Rome. Mais il a fallu attendre jusqu'en 1950 pour avoir la meilleure version de cette œuvre.
Moi, dans ma tête, c'est une annonce de Beaufacha.
Ah, je sais que ça paraît pas à l'audio, mais c'était clippé du sketch de Bugs Bunny.
Oh, nice!
Qui est sorti en 1950, quand même. Puis tu sais, c'est sorti en 1950, puis moi, ça me rappelle mon enfance. Imagine comment il y a eu des reprises de ce foutu show-là.
Ouais. Puis à quel point notre culture est limitée à ce qui a passé à la TV. En tout cas, une annonce, des petits bonhommes.
Yay! Et les skids, hein, c'est ça qu'ils disent. C'est ça, on te bouffe à chat puis un cartoon des années 50. J'avance en 1839 pour l'adoption d'une loi qui va interdire les duels dans le district de Columbia.
Très déçu.
Il me semble que la politique états-unienne serait quand même mauditement différente sans cette loi-là. Hein.
J'aurais quand même aimé ça voir la présidentielle. C'est ça.
1865, fondation d'un des plus grands établissements d'enseignement pour les geeks de ce monde, le Massachusetts Institute of Technology.
Ah, je pensais que c'était le Xavier's Home for Gifted Children.
Oui, parce qu'on se rappellera dans la description de Logan, on parle de bienveillance fatiguée pour un enseignant. On parlait de Professor X, je ne sais pas de quelle façon. Là,
mais... Il va s'en dire.
J'avance en 1933. Adoption du 21e amendement de la Constitution des États-Unis qui supprime la prohibition de l'alcool.
Yeah!
Les moonshiners du sud des États-Unis tentent de marcher sur Washington en protestation, mais leurs femmes / cousines les menacent de ne plus leur faire de ragoût de possum s'ils le font. Le plan est alors abandonné au profit de l'expression consacrée par les inter-piu-piu webnet. And hold my
beer. Ah non, il aurait dit qu'une chanson.
J'avance en 1962.
S'il te plaît, oui.
On va lâcher les moonshiners. 1962, oui. Premier vol habité américain autour de la Terre par l'astronaute John Glenn. Il fera 3 tours de la Terre et puis s'en ira.
C'est toujours mieux que Richard Glenn et son ésotérisme expérimental.
J'y ai pensé en l'écrivant. Aucune façon de faire autrement. J'avance en 1980. Oui, les États-Unis vont faire une annonce officielle de leur boycott des Jeux olympiques de Moscou suite à l'intervention des Soviétiques en Afghanistan. Oh, un instant, on me souffle ici à l'oreille un fait alternatif en provenance de la Maison-Blanche qui dit que ce serait plutôt un complot de l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen pour discréditer, oui, les Murica.
Murica!
Fait bien que je fasse une joke de fait alternatif.
Mais voilà, on a fait un dans le dernier épisode, faut être constant.
C'est ça. 1987, sortie de la version arcade de Contra au Japon.
Yes. Pew, 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 pew. Mauditement approprié.
Beaucoup meilleur que la version de Bomberman, Bomber Chicks avec la linge sport.
Calice, Konami.
J'avance en 2002, sortie de la version Deluxe.
En fait, j'ai tabarnak Konami.
Oh, t'as raison.
Tu sais, ça se lit.
Eh oui. C'est un nouveau mot.
Hashtag tabarnak Konami.
J'aime ça. Donc, 2002, oui, sortie de la version Deluxe de Bejeweled sur le Palm OS. Si je sais pas pourquoi j'aime ça autant de parler des sorties sur Palm OS. Ça doit être à cause de tout ça.
Bon, les gars, faut qu'on se fasse un plan parce que.
Ouais, attends un petit peu, il m'a sorti mon Palm.
Ouais, avec, m'a sorti mon Palm.
Salut
Jean-Luc, as-tu amené ton Palm?
Inquiète-toi pas, j'ai même les deux.
Ouais, toi, à un moment donné, il va falloir t'expliquer ce qu'on veut dire par Palm. Hein?
Happy birthday to you.
1927, naissance de Sidney Poitier.
Oh!
Ouais, je le connais pas beaucoup, là. Je pourrais pas vraiment dire ce qu'il a fait, mais il est dans un des épisodes de la saison 1 de South Park, fait que je le connais.
Tabarnak!
c'est l'épisode avec Mika Streisand.
Oui, bien sûr.
Puis là, tout le monde qui se morphe en gros robot avec un japonais qui chante ce qui se passe, là, comme dans tout bon show de combat avec des gros robots.
Ou comme il se doit.
Comme il se doit.
Voilà.
Ben raison. S'il y a un gros robot qui se bat, ça prend un japonais qui chante.
Ben, tu sais, je suis comme... Je sais pas d'où tu viens, là, mais...
J'en ai un dans le quick dial sur mon téléphone. Ça arrive souvent.
Emergency chanteur japonais pour narration.
Oui. 1942, pour toi, Matt, la naissance du joueur de hockey, Phil Esposito.
Hey!
C'est ça, c'était pour toi.
OK, je le prends.
1967, naissance d'une légende du monde musical. Arrêtez ça là pour pouvoir avoir payé de droit.
t'as poussé ta loque même.
Donc, naissance de M. Cobain. 1989, un autre joueur de hockey, Angelo Esposito. Mais il n'y a pas de lien familial là, avec l'autre Esposito. Hein? Mais pas pire coïncidence pareil. Hein?
T'es-tu rendu avec un son de rire en canne?
Ouais. Tu sais, quand je suis pas inspiré pour les jokes, je me demandais des rires en canne.
Je sais que ça intéresse absolument personne, mais il y a un autre Esposito, par contre, qui a joué au hockey. Tony Esposito, qui, je crois, est le frère de Phil.
Peut-être. Il n'est pas né le 20 février, fait qu'on s'entorche.
Ah, puis même s'il est né une autre... Ben, clairement, il est né une autre date, là, mais même à ça, on s'en calisse.
Je finis ça sur mon dicton.
C'est-tu que j'ai déjà hâte?
Souvent, à la Saint-Aimé, la campagne est enneigée. De la grosse philosophie.
Vous êtes content de le savoir.
Chance que je vous l'ai dit.
Fait que si jamais à la Saint-Aimé, hein, vous avez rien à faire, je présume que la Saint-Aimé, c'est le 20 février.
Exact.
OK, thank God. Puis vous êtes pris en dedans, hein, puis vous avez rien à faire, ben vous pourriez faire pire que de jouer à un petit jeu qui s'appelle All Was Awakening. C'était mon segue le plus laborieux ever. Merci. Qui est un petit jeu développé par Elden Pixels, disponible présentement seulement sur PC, donc via Steam, PC, Linux et Mac, en fait. C'est un jeu qui a... Ben, mettons qu'il coche une bonne quantité de petites boîtes là, pour être un jeu à mode. Là.
On aime ça, les petites boîtes.
On aime ça, cocher des petites boîtes. Graphique 8-bit inspiré du NES. Excellente musique authentique composée avec les limitations du NES. Une autre petite boîte. C'est un Metroidvania, hein? Puis c'est quand même relativement difficile. La seule affaire qui manquait sérieusement, c'était d'être un roguelike. Là. Mais heureusement, on a dodgé cette petite boîte-là.
Mais tu sais, on peut pas vraiment parler d'un roguelike ou d'un jeu, comment on dit ça en français?
Procédural.
Quand Jeff est pas là, ça marche pas.
c'est sa niche. Ça, puis les Walking Simulator. À quand le roguelike Walking Simulator? Tu marches dans un environnement généré procéduralement.
Mais c'est dangereux. S'il y a ça qui arrive, il faut qu'on appelle Jeff à 3-6 heures pour faire un check-in. Parce que...
il risque de pogner un rond à quelque part, pogner dans un rond-point, puis tourner sur lui-même.
Ouais, puis là, il mangera plus. Puis...
on va se demander, mais où est Jeff? Where's Jeff? J'aime tellement qu'il est sleeping outside. C'est comme, where's Jeff? C'est un sans-abri. OK. Alors, l'histoire de All Was Awakening.
Quand Jeff n'est pas là, c'est toi que j'interromps.
Ah, Chris. L'histoire d'All Was Awakening est assez typiquement simple. On incarne Zoé, une voyageuse d'un autre monde qui arrive dans la région de Alwa et qui doit sauver le monde. Parce que tu vas sauver un autre monde, coupe-toi pas du tien, va sauver les autres. Bien sûr. Visuellement, le monde de Alwa est très, très bien exécuté. Là, on a vraiment du très, très beau pixel art qui essaye pas genre d'exagérer ou de faire genre des choses qui étaient impossibles avec le NES, ou en tout cas pas des façons excessivement exagérées. Donc, on essaie surtout de recréer ce qu'on voyait au NES. Puis, je pense que ça rend justement beaucoup service au style du jeu. Notre personnage, c'est une magicienne, là, ce qui fait que le jeu est intéressant parce que même si c'est un Metroidvania, donc un platformer 2D avec une grande carte qui est interconnectée, qu'on doit explorer à force de gagner des sorts et qui nous permet d'aller où ce qu'on pouvait pas avant. Là, bon. Le focus est beaucoup moins sur le combat, mais plus, ben en fait, beaucoup moins sur le combat puis sur l'action que ce qu'on est habitué. Parce que, tu sais, souvent quand on pense au NES, là, on revient tout le temps à Mario, Mega Man, Ninja Gaiden, toutes des platformers qui ont un gameplay vraiment, vraiment rapide puis tight. Mais il y a plein d'autres petits classiques de NES qui n'auront jamais le statut de ceux-là, mais qui ont des solides, solides fanbases. Tu sais, des trucs comme Faxanadu, Battle of Olympus, ou même les Goonies 2 de Konami. Mm-hmm. Puis, Hours Awakening, il file un petit peu comme une lettre d'amour à ces autres jeux-là. En offrant comme... C'est comme la meilleure façon que j'ai de le dire, c'est le meilleur platformer catégorie B du NES, mais de façon volontaire. T'sais, je sais que c'est weird, là, mais ce jeu-là, il essaye pas de se battre contre quelque chose comme Shovel Knight, qui essaye d'être le meilleur jeu de NES qui a pas existé. Tandis que là, on arrive à un point où est-ce que c'est comme, ben, y a plein d'autres jeux qui ont percé notre jeunesse, qu'on a adoré, puis qui seront jamais les grands classiques de tous les temps,
ouais,
mais qui ont un gameplay quand même appréciable. Pis c'est plus là que Hours Awakening se place.
Ce qui est cool, parce que, tu sais, mettons, pour du monde qui aime ça jouer à des jeux comme nous autres, on parlera pas de Mario, tu sais. On va aller comme parler de jeux de NES qui sont moins connus, qui vont plus se rattacher justement à ce que tu me parles là, tu sais.
Exact. Puis d'un autre côté, tu sais, en fait, en mentionnant Faxanadu, il y a quelque chose
que j'ai chez nous, puis des fois, il me dit « Hey, viens donc jouer. »
Yeah, c'est un petit peu, un petit peu difficile. Mais justement, ces jeux-là qui ont un rythme un peu plus lent, le fait que ton personnage se déplace moins vite, oui, évidemment, ça l'aide à avoir un design qui est plus réfléchi, évidemment, parce que tu prends plus le temps d'avancer dans ton environnement, mais ça je trouve que ça convoit bien le feeling de voyager.
Mm-hmm.
Parce que justement, tu prends le temps de voir chaque environnement, puis tu traverses des grandes quantités d'écrans, puis bref, ça donne vraiment un autre feel au jeu, carrément, là, sans rentrer dans plein de concepts random, là, ça donne un feeling particulier au jeu. C'est pas juste une mauvaise décision, c'est une décision.
C'est une décision, c'est ça.
Puis justement, quand je dis que ça se bat pas contre Shovel Knight puis tout ça, là, dans le même esprit que ces jeux-là qu'on a parlé, le comportement des ennemis est assez simple. Puis par contre, le fait que les ennemis soient simples, c'est pas un point négatif. Mais le jeu a une détection des collisions qui est vraiment fucking picky. Oui, c'est un point négatif, mais le jeu l'intègre vraiment bien à son design. Tu sais, exemple, là, t'as des... c'est un ennemi qui est sur une plateforme un peu en haut de toi puis qui se déplace de gauche à droite, là, typique ennemi qui fait les allers-retours sur une plateforme. Essaye pas de sauter de l'autre plateforme puis de le frapper avant d'atterrir. Le jeu compte vraiment sur le fait que tu vas attendre qu'il reparte, que tu vas sauter à côté puis tu vas le frapper. Donc, que tu vas planifier ton déplacement. C'est vraiment... Le level design est vraiment bien construit avec ces limitations-là en tête, puis il demande justement que tu planifies comment tu traverses tes environnements. Bref, comme je disais, là, c'est pas Megaman. C'est vraiment plus délibéré et posé comme façon de naviguer les environnements. Puis ça fait partie carrément du design du jeu, là. Il y a un gros focus sur l'exploration, puis sur les puzzles environnementaux où on doit utiliser les capacités qu'on a dans le jeu, j'y arrive un petit peu plus, puis qu'on doit justement trouver moyen d'atteindre cette plateforme-là qui est un peu plus haut ou qui est un petit peu trop loin, etc. C'est vraiment plus là-dessus que le jeu va focusser. Puis justement, à travers le jeu, on ramasse trois power-up qui sont éventuellement upgradés eux-mêmes. Le premier qu'on a, c'est un bloc qu'on peut faire apparaître pour sauter tout simplement plus haut ou de notre point supérieur plus loin. Il y a aussi, éventuellement, on l'upgrade, puis il peut être poussé dans l'eau, puis il va flotter pour nous permettre d'embarquer dessus puis d'aller traverser un cours d'eau. Il y a aussi l'avantage qu'il peut bloquer les projectiles ennemis. Fait que finit par faire partie de notre stratégie de combat également. Deuxième power-up qu'on a, c'est une bulle qui vient un peu complémenter ce que le bloc fait. Qui, dans le fond, on génère la bulle, elle s'élève dans les airs, puis au bout de 2 secondes, elle disparaît. Puis évidemment, on est souvent porté à utiliser les deux ensemble. Donc de grimper sur le bloc, puis à partir de là, faire apparaître la bulle, puis bon, aller chercher un environnement qui est plus élevé. Parce qu'on ne peut jamais avoir 2 blocs ou 2 bulles, c'est un de chaque. Donc évidemment, on va combiner ça pour avancer. Puis le dernier power-up, c'est un éclair qui sert surtout en combat, mais qui sert aussi à activer certaines switches. Lui, c'est plus une barrière artificielle. C'est comme l'espèce de clé pour avancer plus loin. Bon. Mais justement, en utilisant les combinaisons de tout ça, on explore la carte, puis on combat les boss. Puis les boss reposent beaucoup sur le power-up qu'on vient de pogner, qui est très, très typiquement Zelda comme façon de présenter ça. Y a un souci du jeu qui est très, très clair de te forcer à explorer pour trouver où tu dois aller. Il y a un personnage dans le milieu de la carte là, qu'on rencontre assez tôt, là, qui est à peu près au centre du monde, qui nous dit genre, voilà les 4 boss, sont dans telle région, telle région, telle région, telle région, puis c'est ça son nom. Puis un petit peu comment y accéder. Mais ça nous dit pas grand-chose, ça l'aide quand même avec la carte pour te dire, OK, je n'ai battu 2, le prochain il est probablement où, c'est pas méchant. Mais en dehors de ça, le jeu veut vraiment que tu trouves ton chemin en regardant ta carte. Puis en voyant les corridors qui n'ont pas de mur au bout de sa carte, tu sais, là, tu te dis, ah, je vais pouvoir y aller parce que la carte n'est pas finie, là. Bref, ça me fait penser à quand j'ai parlé de Axiom Verge ouais. Il y a pas longtemps, qui faisait ça sans fucking se gêner. Puis si le jeu est assez compact, un peu comme Axiom Verge faisait, c'est agréable. T'sais, si le monde est trop grand, puis là, tu cherches où aller, puis là, t'as l'impression que t'as tout vu de la carte, puis tu trouves pas, ça peut être chiant.
Ouais, parce que tu passes deux jours à retourner à l'autre place pour voir où est-ce que t'as pas vu.
Bon, puis là, tu finis juste par ouvrir Google, trouver un walkthrough, puis faire comme, ah, c'est là, il fallait que j'aille, Chris, c'est cave. Bon. Mais tu te dis jamais, ah, j'y ai pas pensé, tu te dis juste, est-ce que le jeu m'a mal informé, ouais. Tandis que dans Axiom Verge, il y a un moment que j'ai eu le feeling que j'ai cherché un peu pour trouver plus que ça me tentait. Dans le temps que j'ai dans Always Awakening présentement, ça m'est pas du tout arrivé. La carte est assez compacte, là. C'est vraiment pas la fin du monde. Le monde est quand même condensé, ce qui fait que c'est pas la fin du monde de devoir explorer pour trouver où aller. Puis j'en ai déjà parlé, là, mais tous les jeux que t'as des maps, puis là, qu'il y a un point qui glow, ou carrément les maudites lignes GPS pour te dire où aller, là, ça fait que t'explores pas, là.
Ouais.
Puis quand un jeu m'embarque assez pour que j'accepte de me promener sans savoir où ce que je vais, sans savoir c'est ça, exactement où se trouve le prochain objectif, là, mais ça me rappelle justement c'est quoi le feeling de découverte qu'un jeu peut donner. Avec justement la bonne vitesse de déplacement, la bonne ambiance du jeu, la bonne bande son qui contribue beaucoup, c'est un feeling d'exploration qui est impossible à égaler. Puis si tu me mets un GPS, ben soudainement je développe une myopie, puis je m'en vais juste vers la ligne, puis on oublie justement d'explorer. Bref, ce jeu-là, ben, évite ces pièges-là. C'est un jeu qui est difficile. On a juste 3 points de vie en tout temps. On peut trouver une potion. Là, dans chaque donjon, il y a comme un objet optionnel qui nous permet de débloquer d'autres trucs. Puis on peut avoir une potion qui nous remplit quand on meurt. Donc, qui nous redonne 3 points de vie quand il est vide. Mais pour la remplir, il faut trouver des puits. Puis on n'a pas souvent l'occasion d'en croiser. Donc, tu comptes pas souvent là-dessus, ouais. À moins d'avoir vraiment le goût de te claquer du backtracking puis d'espérer de les conserver. Fait que ça fait qu'on ignore jamais un ennemi en se disant que c'est pas grave de manger un coup, même si les save points nous guérissent. Mais quand on visite des zones, on est quand même toujours à risque. Même les premières zones du jeu conservent une certaine menace. T'sais, oui, t'es plus apte à jouer, mais le jeu t'a pas rendu tellement fort que tu peux tout ignorer.
Ouais.
Comme je disais tantôt, là, le monde est compact. Là. Fait que justement, le fait que la menace reste présente, même si quand tu cherches ton chemin ou que tu profites de tes nouvelles aptitudes d'exploration, comme dans tous les Metroidvania, c'est jamais blasant. T'es jamais comme, bon, ben là, je vais juste y aller. Puis
faut que je repasse encore là. Puis...
C'est ça, ça reste un défi. Fait que ça reste quelque chose que tu gères avec soin, les save points sont où, puis c'est quand la dernière fois que tu as sauvé. Puis parlant des save points, par contre, des fois, ils sont un petit peu loin des gros défis du jeu. T'as souvent des pièces qui peuvent être vraiment difficiles ou, évidemment, les boss qui sont difficiles. T'sais, vu que t'as juste 3 points de vue, les boss sont pas très longs. Puis les pièces qui vont être difficiles vont souvent avoir du insta-death. Parce que à 3 points de vie, on te tue instantanément ou presque. Là,
ouais.
C'est la même chose. Fait que souvent, quand t'as des pièces qui sont très difficiles ou justement les boss, les save points sont juste comme 2-3 pièces trop loin. Tu sais, dans Metroid, la porte habituellement est juste en face. T'sais. T'as une porte, t'as un corridor, t'as le boss l'autre bord. Bon. Là, t'as peut-être comme 2-3 rooms entre les deux qui sont capables de te faire perdre un point de vie. C'est un peu tannant quand ça fait 4 fois que tu claques le boss. C'est jamais si dur, mais ça te demande vraiment d'être comme même alerte juste pour te rendre. Bref, c'était pas si nécessaire. Puis c'est sûr que tu n'auras pas les boss la première fois parce que les boss sont assez difficiles, mais ils sont en général, ils sont assez intéressants. Là. Ils demandent de bien comprendre les patterns, bon, à la Mega Man, mais ils nous demandent d'utiliser nos power-ups de façon puzzle. Donc, toutes les mécaniques du jeu sont conservées. C'est pas soudainement un changement de vitesse de la part du jeu quand on arrive au boss.
Ouais, tu arrives au boss puis c'est juste du piou-piou. Là. C'est pas
non,
ça, là.
C'est ça. Il y a souvent justement des boss qui vont faire comme des espèces de murs de flammes qui avancent, mais là, ça te demande de faire apparaître ta bulle puis de grimper dessus avec le bon timing. Mais la première fois, c'est sûr que tu l'as pas. C'est absolument impossible. Ou tu as des ennemis justement qui vont quasiment faire des barrages de balles. Tu te sers presque jamais de ton bloc vert pour les bloquer, mais sers-toi-en, parce que ça devient vraiment utile. Fait que tout ça rentre en ligne de compte puis demande de bien analyser le boss. Pas juste de twitcher puis d'espérer de traverser. Tu as juste 3 points de vie, tu seras pas capable. Puis, ben finalement, hein, on s'en sortira pas. La musique. Les compositions sont assez simples, mais tout est vraiment catchy puis fit mauditement bien avec le jeu. Comme je disais, dans un jeu où il y a de l'exploration, si la bande-son te donne ce feeling-là d'exploration, ça va tellement bien appuyer puis ça va faire un beau jeu.
Oui, puis ça va meubler les bouts où est-ce qu'il faut que tu te déplaces un peu plus. Puis...
Ouais, exact, parce que ça pourrait devenir facilement lassant. Tu sais, encore, il n'y a pas de quoi faire Parashovel Knight non plus pour la musique. Là. C'est sûr que bon, on parle du standard probablement à tout jamais, de la musique rétro dans un jeu. Mais je me suis quand même surpris à siffler des tunes de Always Awakening, dis-je, après avoir joué. Fait que compliment s'il en est un. Là. Donc, comme d'habitude, je vous donne quelques extraits. Thank you.
d'accord avec toi, c'est vraiment la bonne musique. Puis je comprends ce que tu dis par rapport à Shovel Knight. En même temps, Shovel Knight n'a pas composé avec les limitations du NES, là.
Oui.
Ah oui?
Ben, en fait, les limitations du NES incluant un chip VRC6 de Konami.
Oui, c'est ça.
Mais c'est quand même possible de faire jouer les pièces sur un NES.
OK,
mais encore une fois, j'ai l'impression que dans l'hommage que Hellboy's Awakening fait à un certain type de jeu...
Ouais, au jeu de série B, mettons.
Exact. Il y a un petit peu de ça, mais de belle façon. Le meilleur de ces séries B-là. Puis à noter, par contre, et ça, j'ai très hâte d'en savoir plus, Elden Pixels, le développeur, va offrir une édition limitée du soundtrack bientôt en cassette de NES.
Ah, c'est cool. Fait que tu vas mettre ça dans ton NES. Pis... Ouais,
c'est ça, vu qu'il a été composé en Family Tracker, ils vont mettre un player, puis on va pouvoir l'écouter directement sur NES. Fait qu'on n'a pas d'infos sur le prix, mais c'est dû pour ce printemps.
Cool.
J'ai vraiment hâte d'en savoir plus parce que je suis candidat pour ça. Ouais, un petit peu.
Pourquoi tu dis ça?
Fait que j'ai pas encore complètement fini le jeu. Je dois pas être bien loin, par contre. Ceux qui ont complété le jeu suggèrent que ça prend autour de 8 à 10 heures, quand même. Ça s'enligne pas mal avec ce que je vois. Puis j'ai pas pogné de temps faible encore. Évidemment, c'est basé... Chaque boss est dans son environnement, qui sont quand même assez importants. Mais l'environnement est tellement bien interconnecté aussi que même si chaque environnement est clairement designé pour être fait dans un sens, il y a quand même une boucle au donjon... t'es souvent amené à y repasser de façon diagonale pour accéder à d'autres endroits. Fait que, comme je disais, le monde est compact puis il est vraiment utilisé au maximum. Puis c'est un beau compliment pour un Metroidvania.
Ouais, c'est un beau game design quand tu utilises le peu d'espace que t'as, mais vraiment au maximum, c'est...
Fait que, je donne 3 pattes de divan sur 4. Puis la quatrième patte, ben, elle est l'autre bord du lac. Là, je crève en essayant de traverser, puis le dernier save est un petit peu loin avant. Là, fait que je laisse faire, puis je me contente de 3 pattes.
OK, c'est correct. C'est fair.
Voilà. You.
Hey,
direct, hein?
Direct, piou. Ouais, c'est jeu. J'avoue, hein? Jeu, bang.
Ouais, voilà.
Là, il y a une réflexion entre les deux, mais là, Jeff est pas là, fait qu'on réfléchit pas.
Et voilà, pas temps de penser.
Right. Ça faisait un bout de temps, déjà, que j'avais pas fouillé dans mes jeux Steam qui traînent, tu sais, de mes nombreux bundles. Là. Puis une couple de semaines, je suis tombé sur Evil End 2, que j'avais pogné dans un de ces multiples bundles, justement.
Si je me trompe pas, c'est la suite de Evil End.
Ben, j'en parle, justement.
Ah.
Parce que pas tout à fait, il y a quelque chose avec ça. Pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, là, c'est non, pas la suite, justement, mais plutôt le successeur spirituel de Evil End.
Postique, tu gosses.
C'est aussi, tu m'interromps?
Regarder la tradition vivante.
Ben oui. En fait, Evil End, le premier, là, c'est un jeu qui avait été un gagnant d'un genre de game jam là, ouais. Qui avait un autre nom, dans le fond, auquel va participer Nicolas Canas, qui est un Français. Un Français.
À ne pas confondre avec un Français.
Non, c'est pas pareil.
C'est lesquels qu'on aime déjà?
Je sais plus. Là. Mais lui, on l'aime.
OK,
je peux te le dire tout de suite, le spoiler. Lui, je l'aime, c'est correct. Dans le fond, les participants avaient 48 heures pour composer, développer un jeu qui avait comme thème évolution ou l'évolution. Puis son jeu a remporté, dans le fond, en misant sur le concept où, avec le temps qui passe dans le jeu évolue avec les différents styles de gameplay puis les styles graphiques de l'évolution des jeux vidéo dans la réalité. Fait que le concept a été bien reçu, ça a bien été aimé. Puis,
même en dehors d'un game jam, le concept est juste tellement fait pour les fans de rétro.
Ben là. Voilà. Fait que ça a été assez bien reçu, puis tellement bien reçu, en fait, la compagnie Shiro Games, là, qui est comme copropriétaire de la compagnie, ils ont décidé de développer un jeu beaucoup plus étoffé, une suite, si on veut, qui est Evil End 2, avec plus de gameplay, plus de personnages, un jeu plus complet, finalement, là, qu'un qui est développé en quand même 48 heures. Tu sais. Et voilà, c'est Evil End 2 qui est sorti en 2015. Fait que pas une suite, plus qu'un genre de... quasiment un reboot, finalement. Fait que, tu sais, d'habitude, c'est là que je parle à peu près dans mes reviews du style de jeu, du type de jeu, puis c'est moins évident dans ce coup-là. Je pourrais dire, mettons, que pour commencer, le jeu à la base, c'est un action RPG, un peu style Zelda, au niveau du combat, où on va incarner un personnage qui s'appelle Kuro, qui parle pas vraiment, puis qui est amnésique. Donc, vous allez dire, hey, on nage pas dans l'originalité ici, hein? Puis vous auriez pas vraiment tort. Mais en même temps, les développeurs le savent, puis c'est un peu ça le but, de pas être si original, de rendre hommage finalement à un paquet d'autres trucs. Donc, Kuro se réveille, ne se souvient pas vraiment qui est, est dans une forêt, tente de comprendre ce qui se passe, en tentant de comprendre ce qui se passe, se retrouve projeté dans le passé, puis là, en voulant revenir vers le présent, il se retrouve plus projeté dans le futur pour se rendre compte qu'il y a une catastrophe qui va se produire, puis il veut tenter de l'empêcher.
Et c'est là que la Vos apparaît.
C'est ça, hein? Ça ressemble un petit peu à ça, hein?
Ouais, il y a un petit peu de Chrono Trigger là.
Il y a un petit peu, mais en même temps, pas mal sûr que c'est voulu. T'sais. Mm-hmm. Fait que, ben oui, voyage dans le temps est assez central à l'histoire d'Evoland. En fait, c'est un des concepts qui a été repris du premier jeu parce que, dans le fond, selon l'époque où on se trouve, c'est là que les graphiques du jeu vont changer. On va avoir des graphiques style 8-bit un peu boosté, mais quand même pour le passé, un peu style 16-bit, style Super NES pour le présent. Puis un 3D, là, un peu style I Am Setsuna pour ceux qui ont vu, avec des personnages qui ont des petites jambes là, mais pointues là, pour le futur. Donc, on se retrouve même une fois dans le jeu dans les temps anciens, genre de
Game Boy.
Quoi. Game Boy, ouais, qui avec le petit côté ton de verre du Game Boy original. En fait, le jeu commence là-dessus, là, dans l'espèce de petit tutoriel de genre, tu te déplaces de gauche à droite, en haut, en bas. Là. C'est un peu niaiseux de mettre un tutoriel parce qu'il n'y a pas de contrôle, mais voilà, on revoit ces éléments-là de verre Game Boy. Puis le pire, c'est que ça, c'est quand même le fun. T'sais. Fait que ça, c'est comme la gimmick principale du jeu. C'est une gimmick intéressante. Puis heureusement, mais c'est pas ça le plus intéressant dans le jeu. Mais pendant que tu parlais tantôt de musique, là, j'avoue que j'aurais aimé que la musique suive les époques. Ça aurait quand même été nice.
Ça aurait été assez convaincant comme effet.
Mais c'est pas le cas. Bon, j'ai rien dit sur la musique tantôt, là, c'est quand même pas mauvais non plus. Fait que c'est ça, comme je disais, on se retrouve dans une histoire où on veut sauver le monde d'une catastrophe en voyageant dans le temps pour l'empêcher. Encore là, rien de fou et original tant que ça, mais c'est quand même le but. Là. Le jeu, comme je le disais, se joue comme un top-down action RPG, là, un jeu d'action où, vu du dessus, un peu style Zelda, on va contrôler les personnages, on hack puis on slash dans nos ennemis. Puis avec quand même aussi certains éléments de puzzle qui sont quand même assez intéressants à faire, rien de trop compliqué, mais qui fait que le jeu se joue bien puis est intéressant. On va faire équipe avec éventuellement trois autres personnages là, qu'on va pouvoir utiliser, si on veut, comme des attaques spéciales, finalement. Ils sont pas là en tout temps, mais en combat, on peut charger notre attaque pour leur faire les attaques. Puis ils sont différents, les trois. Un genre de blast, un truc avec de la glace, un slash en ligne droite. Ils ont comme leurs attaques qui sont intéressantes, puis qui servent aussi pour certains puzzles, puis aller chercher certains trucs qui sont cachés. Fait que le gameplay, oui.
Ben oui.
Il est bien, en fait. Il y a une bonne diversité d'ennemis, une bonne diversité de puzzles. Puis encore là, pas de grosses nouveautés. Ça va être un peu la thématique de ma review.
On est en terrain inconnu.
Voilà. Niveau histoire, ben je l'ai dit tantôt, on parle pas d'une narrative méga originale, mais on retrouve quand même des éléments intéressants. Puis je vais pas faire toute l'histoire du jeu parce que il est assez intéressant au niveau narratif pour que tu embarques puis tu suives, mais il y a pas de quoi vraiment en parler dans une review. Tu te promènes pour essayer de sauver. Il y a des bouts de fun où est-ce que tu as des éléments qui se répètent d'un moment à l'autre dans l'histoire parce que l'histoire est relativement rapprochée. Là, c'est des bons de 50 ans à chaque fois. Fait que tu sais, des personnages que tu peux quand même recroiser entre plusieurs époques. Il y a des ennemis qui sont là sur les trois époques parce qu'ils sont, tu sais, puis bon, t'as des références à. C'est quand même bien pour ça. Puis, mais tu sais, niveau narratif, c'est pas intense, c'est pas fou. Voilà. Mais comme dans tout bon RPG, bon, on a un héros qui est héros malgré lui, qui se cherche. On a une situation, un héros qui veut empêcher un désastre. Puis le bout intéressant, tout ça vient un peu de l'omniprésence du débat entre la destinée puis le contrôle sur sa vie. Là. Parce que bon, t'as des personnages qui s'ostinent là-dessus, genre est-ce qu'il y a une fate, là, une destinée établie ou est-ce qu'on peut changer le passé? Puis il y a comme entre les personnages secondaires des ostinations un peu en cours de jeu parce qu'on le sait pas, tu sais. Puis spoiler, j'avais pas marqué, là, on se rend compte à la fin du jeu que zéro, c'est tout quasiment prédéterminé, puis ça va plus loin que ça. C'est un cycle. Les temps anciens, c'est le futur de notre futur, tu sais, genre, il y a une roue qui tourne. Ouais. Que tu comprends pas vraiment en le jouant, tu sais, c'est comme, tu te creuses un peu la tête. Bref, tu sais, voilà. C'est une narrative assez intéressante pour que tu embarques. C'est pas le point central. Rendu là, à part la gimmick des graphiques, ben, tu sais, pas grand-chose à dire, là. J'aurais pas fait une chronique s'il y avait eu juste ça. Hein, c'est un RPG classique avec un look rétro qui change un peu selon les moments du jeu. Par contre, ce qui rend le jeu vraiment intéressant, c'est que c'est un jeu qui est fait par des fans, clairement, puis pour des fans de jeux vidéo, là. La référence, le fanservice est là partout dans le jeu, puis pas juste au niveau de la présentation graphique, et là, un peu partout, là. Genre, par exemple, en cours de jeu, on retrouve, dans les différentes sections qu'on va traverser, un paquet de styles de jeux différents. J'ai fait une liste, là, je pense avoir pas mal fait le tour, mais mettons, il y a un moment donné où est-ce qu'on se retrouve à devoir être dans une bibliothèque pour ramasser de l'information, pour savoir un peu comment voyager dans le temps. Mm-hmm. Puis là, ben, le professeur qui est là nous dit, ben, pour que je te donne cette information-là, il faut que tu ramasses des crédits. Fait que faut que tu ailles voir mes assistants, puis tu ramasses des crédits, puis tes crédits, c'est des puzzles, mais vraiment style Prof Layton.
Mais comme, hey, non.
Pas juste le style est là, la genre de musique est là, mais c'est plus loin que ça, c'est que quand tu le réussis ou tu l'échoues, t'as la même stick de cutscene que dans Prof Layton avec ton personnage à toi, là, que ça avance à comme trois écrans de zoom, puis là, hop, m'en est un petit sourire, t'as réussi ou un petit baboune t'a échoué, t'sais. C'est identique, là. Tu sais, c'est pas par erreur.
C'est un hommage.
C'est un hommage. T'as une section du jeu, à un moment donné, où est-ce que tu pognes un appareil pour voler un truc volant, puis t'as une section shmup style Twinbee, un schmuck vertical. Puis il est quand même le fun. Il est le fun à jouer. T'as comme des mini-boss, puis tu as à faire une bonne section, puis plus tard, tu peux la refaire
à volonté.
Pour le plaisir, là, puis aller ramasser aussi des cartes. Là, qui, bon. Bref, un petit shooter là, qui est quand même bien. T'as un fighting game. À un moment donné, tu te bats contre un gars qui dit que c'est toi qui as fait le désastre. Puis quand tu retournes dans le passé, tu te rends compte que c'est parce que t'as comme scrappé sa cachette secrète quand il était kid. Puis il dit que t'as tout détruit, puis que t'as empêché le désastre, mais t'as comme flooded genre, le monde. Puis là, tu te rends compte vraiment t'es dans sa tête puis qui est un peu fou. Mais bref, t'as un bon fighting game complet avec des Hadouken puis des Shoryuken et les mêmes combinaisons de boutons pour les faire.
Évidemment.
Fait que tu te fais vraiment un petit fighting game. Là,
J'aurais pas pensé qu'il aurait sorti du RPG.
Ah, écoute, ils sortent du RPG. Il y a une section du jeu, où est-ce que tu vas travailler dans un restaurant pour ramasser de la bouffe, de l'argent.
Dinner Dapper, c'est quoi?
C'est Dinner Dash, là.
OK, thanks.
Ou est-ce que t'as comme des gens à leur table où t'as prendre leur commande, chercher leur commande, leur ramener, prendre la paye avant qu'ils soient pas contents, puis c'est identique. T'as une section où est-ce que t'as un endless runner, où est-ce que t'es sur des toits, puis tu te rends à la fin du tableau. Puis à la fin de ça, t'as un boss style Megaman, là, avec les petites portes là, qui se ferment en pointillés. Fait que vraiment un boss style Megaman à combattre. T'as une section RPG, mais vraiment RPG, où est-ce que t'as un pop-up qui dit You've discovered ATB. Fait que t'as une section avec du Active Time Battle, où c'est la seule fois où tu joues avec les autres personnages en même temps que toi, qui fait très très Chrono Trigger.
Parce que je sais que dans le premier Evil End, Tu débarrais toutes les mécaniques.
Ouais, c'est ça.
Une à une.
Mais fait dans celui-là, tu promènes beaucoup plus.
Ils font pas le pop-up à toutes les fois. Là.
Il y a des pop-up à chaque fois avec des petits décors. Tu sais, par exemple, l'espèce d'artefact qui permet de voyager dans le temps, d'activer les monolithes qui permettent de voyager dans le temps, c'est une manette de NES. Là.
Simple de même.
Direct de même.
Non, mais c'est correct. Avec un NES Advantage, le joystick du Nintendo, les Ghostbusters ont piloté la Statue de la Liberté.
C'est vrai.
Est possible.
Tout est possible. Fait que oui, ça c'est un petit bout de RPG qui est quand même vraiment le fun à jouer pour un RPG plus style Final Fantasy. T'as un beat'em up, style Double Dragon, où est-ce qu'il faut que tu te rendes à la fin d'un repère de pirates, puis avec les ennemis qui sont différents, puis que le dernier c'est Captain Abodo, genre.
Ah.
Tu sais, fait que c'est directement ça.
Hey, ça a dû être interminable à développer, cette affaire-là.
Ça doit être quelque chose, là. Puis tu vois, eux autres aussi, les pirates, tu peux te rebattre contre dans un colisée, là, pour la section beat'em up, là, dans un genre de colisée, puis tu vas juste te battre contre eux autres. T'as un boss à un moment donné, style Donkey Kong, où est-ce qu'il te piche des trucs, un peu comme si c'était des barils, puis il faut que tu sautes par-dessus en montant en haut. T'as un tournoi de Bejeweled à faire contre des Vikings. Ouais, avec W, là, comme un Viking avec un W.
Oui. Ben oui.
Ouais. Ou est-ce que tu sais, faut que tu fasses un tournoi pour réussir à avoir accès à quelque chose, puis c'est du Bejeweled que tu fais, un peu style Puzzle Quest, mettons, avec des power-ups puis des actions. T'as une section plus RPG tactique, style Fire Emblem.
Oh, nice.
Que tu fais, ouais, qui est quand même vraiment bien faite puis intéressante à jouer, où est-ce que tu achètes des. Tu sais, t'as tes personnages à toi, mais où tu achètes aussi des mercenaires que tu peux upgrader, puis. Puis, tu sais, pour vrai, c'est pas évident. Il faut que tu y réfléchisses à la tactique, puis tu y penses un peu, parce que tu peux te faire facilement ramasser si tu y
réfléchis. C'est pas juste une joke.
C'est vraiment une section développée. Y a un boss aussi où est-ce que tu te bats compte en faisant un rhythm game.
Nice.
Avec une tune quand même assez catchy.
Excellent.
Puis la tune est quand même nice tout le long. C'est juste weird. Bon, gauche-droite, ça fait assez bien. Là. En haut, en bas, c'est tout le temps un peu weird parce que tu te mélanges, mais il se fait assez bien. Puis il est assez permissif pour que si tu te trompes un peu en haut ou en bas, tu vas réussir à le faire pareil. Si tu...
pas besoin d'avoir été une machine de DDR de ta jeunesse pour t'en sortir.
Mais un peu plus tard dans le jeu, une fois que tu l'as tué, en fait, il drop une clé. Tu peux aller rouvrir. C'est le chef des sorciers. Fait que tu peux retourner rouvrir la maison des sorciers qui a tout le temps été barrée. Puis là, t'as un garde nowhere qui est « Ah, tu m'as découvert, j'aime ça jouer de la musique », tu sais, qui te permet de rejouer cette toune-là, puis en version hard aussi, qui est quand même tough, là, je veux dire. Je te dirais que la première fois que je l'ai faite, je l'ai fini dans le rouge, là. T'as quand même un petit meter comme à Guitar Hero, là. Puis il en fait jouer une autre toune qui est plutôt dans le jeu, une toune d'une forêt hantée, qui est quand même aussi assez nice. We'll be right back.
Fait que c'était l'hommage à Castlevania, c'est ça?
Ouais.
C'est à peine dissimulé.
À peine. Il n'y a juste pas de pachinko érotique. Oh. Parenthèse justement sur la musique, là, ces tunes-là, ils sont vraiment, vraiment nice, puis ils sont comme plus recherchés, ce qui n'est pas le cas de toute la musique du jeu. Elle est quand même bien, là, elle s'écoute bien. Il y a une couple de tunes quand même nice qui vont bien appuyer. Genre la tune du bout en Endless Runner est super rythmée, super rapide. Il y a quand même quelque chose de cool. Mais ceux-là, en particulier, étaient quand même vraiment cool, vraiment poussé. Fait que, tu sais, je termine vite. Là, il y a une autre section de shmup plus horizontale vers la fin du jeu avec un boss qui fait extrêmement boss de shmup, là, où est-ce qu'il faut tirer en haut, en milieu, en bas
pour péter
les sections. Puis il y a un jeu quand même nice, quelque chose qui est un peu tout le long du jeu après à peu près la moitié, un jeu de cartes à collectionner où tu vas jouer contre les personnages qui sont dans le jeu, mais partout. Là. Fait qu'une fois que tu as ça, tu as le goût de refaire le tour pour de revoir tout le monde, qui est assez simple, mais quand même le fun. Puis quand tu commences, c'est pas évident parce que t'as des cartes de schnout. Puis chaque fois que tu vois quelqu'un, ça donne une bonne carte. Fait que là, à un moment donné, ça devient vraiment violent. Mais
ça, c'est un bel hommage au RPG. Là.
Ben, c'est ça.
Au final 8, en fait.
Genre, là.
Qui était le roi de ça.
Il est assez le fun à jouer pour que j'ai eu le goût de jouer. Puis de faire le tour 3-4 fois des différentes maps pour essayer de trouver tout le monde. Là.
Non, sérieusement, je savais ce que le jeu était. Je trouvais que c'est cool, mais je savais que c'était. En fait, je pensais que c'était pas pour moi. Ouais. Mais avec tout ce que tu viens de dire, je suis comme, il va falloir que je joue.
Tu sais, on joue à beaucoup de choses. C'est sûr, ils n'ont rien réinventé dans aucun de ces styles de jeu-là, mais tu ne veux pas le réinventer, tu veux faire un hommage. Mais en même temps, tout se joue bien. J'ai pas fait une section où est-ce que c'était c'est vraiment en con, là, ils ont mis ça, puis c'est mal fait, puis c'est pas agréable. Toutes les sections se jouent bien, sont le fun à jouer. Il y a assez de difficultés que ce soit pas juste comme niaiseux, mais pas trop de difficultés pour que ça soit pas genre tu tapes la gueule dans un bout, comme mettons que t'es pas trop bon en shooter, puis tu gosses en shooter. Il y a tout le temps moyen de refaire des bouts, puis il y a tout le temps des saves assez souvent dans ces sections-là, justement parce qu'ils savent que c'est peut-être pas pour ça que tu as commencé à jouer au jeu.
Toujours le fun, jamais laborieux.
Ben c'est ça. Tu sais, genre la section de beat'em up, là, oui, je suis mort fréquemment, surtout au dernier boss, parce qu'il te fait un charge qui te pong, qui t'enlève genre quasiment le quart de ta vie d'un coup, tu sais. Mais ben bon, après l'avoir fait 2-3 fois, tu comprends ses patterns, puis il devient facile à éviter. Puis
tu recommences juste avant, quoi.
Tu recommences juste avant, là.
Bon,
tu sais, fait que contrairement à ton jeu.
Carrément aux
Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a des saves assez fréquents pour que même les sections qui sont différentes, si t'es pas trop habitué, tu y arrives assez rapidement à les faire. Là. Fait que tu sais, des styles différents qui sont vraiment le fun à jouer. Puis si c'est pas assez, le jeu est rempli, mais rempli de références à d'autres jeux, de références à d'autres éléments aussi de culture geek très, très, très variés. Au départ, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi intense. J'ai pris une couple de notes. Ah, c'est drôle, je m'en parlais sur le podcast. Sinon, je ramassais avec genre des pages de notes de références. Puis j'ai décidé de continuer de les prendre. Je me disais, là, j'ai commencé, m'a tout noté ce que je vois que des références. Fait que j'en ai probablement manqué quelques-unes, mais j'ai comme préparé une petite liste. Puis là, petit avertissement, là, si quelqu'un veut jouer au jeu, puis désolé pour toi, Matt, tu sais, moi, je skipperais de 2-3 minutes là, juste pour pas avoir tout de spoiler parce que c'est quand même le fun de découvrir ces références-là en cours de route. Si ça vous intéresse moyen, c'est quand même cool de suivre les références. Fait que, spoiler alert, là, vous êtes avertis. Fait que, j'y vais un peu en liste, là. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu partout dans le jeu? Il y a un bout où est-ce qu'on doit se sauver d'une prison. Puis comment on sauve d'une prison? Boîte de carton. Puis il y a une référence dans le générique à ce bout-là aussi, où est-ce que d'autres personnes essaient de sauver la prison, puis là, le garde les pogne. T'as un combat dans un colisée contre des Ninja Squirrels.
Ah, ben oui.
Qui sont quatre.
Mm-hmm. Ils ont des bandeaux de couleurs?
Ils ont des bandeaux de couleurs.
Yes, sir.
Dans une ville, t'as un NPC qui nous demande de ramasser ses poulets parce qu'ils sont sauvés. Puis il a fait confiance à un dos d'habillé en verre qui s'en servait pour planer. Suite de ça, un peu plus tard, sur une île qui est perdue quand tu obtiens, parce que c'est un RPG, fait que tu obtiens un appareil pour voler.
Évidemment.
Plus tard, quand tu peux te rendre sur cette île-là, qui est dans le futur, t'as une île où est-ce que tout ce qu'il y a sur l'île, c'est un poulet. Puis quand tu le frappes, t'as un genre de gauntlet mongol de poule qui t'attaque, là, que la première fois, je suis mort. Puis tu sais que, bon, après ça, quand tu le fais la deuxième fois, tu t'y attends, tu te fais une coupe de tu sais, tu charges une attaque avec un de tes alliés, là, puis tu te wipes une gang de poulets. Ça finit avec une poule géante qui t'attaque.
Tu te wipes une gang de poulets.
Ouais, tu te wipes une gang de...
Le coq.
Et toute sa famille.
Oui, voilà, toute sa famille. Bref, c'est quand même une petite île qui a que ça dessus, puis que je pense que quand tu finis, ça te donne un élément pour un power-up, mais tu sais, rien d'intense, mais c'est quand même comique, puis une belle référence. Dans les maisons, quand tu es dans, je crois que c'est dans le passé ou dans le présent, je ne suis plus trop sûr, tu as une peinture sur les murs de plusieurs maisons qui ressemble à la peinture du cri là, de Munch.
Ouais. Tu sais,
mais avec un nu de Final Fantasy. Pas un nu, une personne nue, mais le bonhomme bleu, là, c'est vraiment très drôle. Il est là, puis il se tient la tête. Là, c'est... T'sais, comme si les références n'étaient pas assez directes. Puis il y en a un autre qui ressemble à Ultros aussi. Là, genre c'est... Mm-hmm. Les références sont même jusque dans la décoration sur les murs. Il y a une milice. Puis quand tu parles aux gens de la milice, ils disent ah, la première règle de la milice, c'est de ne pas parler de la milice. Dans une caverne, tu rencontres une exploratrice qui s'appelle Clara Loft. Oui. Il y a des pirates qui s'appellent Biggs et Wedge.
Nice. Oui. Ça les prenait.
On n'a pas le choix. Dans un des donjons, tu as un monstre qui est direct un creep de Minecraft, pas modifié rien. Juste vert, puis quand il meurt, il explose.
Direct.
Puis t'as un achievement pour mourir dans l'explosion du creep. Pourquoi pas? T'as un matin où est-ce qu'un on se réveille, puis un de nos alliés qui dit « Ah, j'ai fait un rêve, j'ai fait un cauchemar, où est-ce que je portais une robe rose, j'étais entouré de champignons qui me prenaient pour leur princesse. » Quand même, trouve pas pire. Il y a un boss, à un moment donné, quand tu te bats compte, pendant le combat, il pète une coche, puis il devient blond.
Ah ben oui, Isayun.
Isayun, ouais. Puis il pige des boules d'énergie aussi pour vrai. Là, c'est fait que ça fit quand même. Il y a un bout où, dans le fond, c'est un des bouts où est-ce qu'il y a beaucoup de références, qui est un labo, dans le fond, où est-ce qu'on retrouve un paquet d'ordinateurs et de cuves. Fait que là, ils ont boosté ça de stock. Sur les écrans d'ordi, quand tu regardes chacun des ordi, ils sont pas tous utilisés pour des raisons de jeu, mais ils ont pratiquement tout quelque chose qui va dire. Il y en a un qui dit des images floues sur l'ordi d'une créature qui court, un genre de hérisson bleu, c'est weird. Il y en a un qui disait « Ah, oh, cet ordinateur-là semble plus utilisé que les autres, puis il y a une application qui s'appelle Wow. » Là, j'ai ri, là, j'ai vraiment perdu ma shit.
J'ai peur que tu dises genre « Pornhub » ou « Good
Ça aurait été pas pire aussi, mais tu sais, je pense qu'il voulait rester plus.
Il était pas si utilisé que ça.
Ah, c'est ça. Il était pété. Là, dans ce labo-là, tu as un système de sécurité qui où est-ce que tu dois activer 5 ordinateurs, puis pour désactiver, en fait, désactiver le système de sécurité, là. Puis pour activer, il faut que tu joues à Pong, à Space Invader, à Pac-Man puis à Snake.
Mais voyons donc.
Puis il y a une référence à un lab 16 puis un lab 32. Puis ça, c'est la référence directe à Chrono Trigger là, pour les fans. Parce que les deux labs, c'est 16 et 32 dans Chrono.
Je l'aurais manqué.
Ouais, puis ça, là, j'étais comme, attends un peu, c'est le même chiffre. Puis je suis allé vérifier parce que j'ai beau être très fan à un moment donné, ça reste un détail. Puis t'as des cuves un peu partout. Fait que dans une cuve, on va retrouver un alien.
Bien sûr.
Puis que quand tu le regardes, une de tes. Une de tes alliés qui te dit, ah, ça me donne un drôle de feeling dans l'estomac. Il y a un Mew aussi. Le Pokémon.
OK.
Mew, là, oui. Puis t'as un Metroid dans une cuve, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
Ah oui, le lab, c'est celui du professeur Giro, G-I-R-O. À ne pas confondre avec le docteur Giro, G-E-R-O dans Dragon Ball. Là. C'est sûr que c'est une erreur facile à faire parce que dans le labo du docteur Giro avec un I là, dans le jeu, on retrouve des contenants qui sont identifiés numéro 16, 17, 18, 19, les androïdes de Dragon Ball. Mais... Puis, tu sais, il y a aussi un cadre avec le logo de l'armée du ruban rouge. Là. Fait que,
c'est pas subtil.
C'est même pas subtil. Puis, quand le labo il blow up, tout ce que tu retrouves dans les décombres, tu sais, c'est une petite île avec les décombres, il y a genre un bout du cadre, puis un bout du contenant d'Android 16. Là, fait que c'est direct là. T'as un magasin dans une ville que tu finis par débloquer plus tard là, en aidant le gars à inventer quelque chose. Que dans le magasin, tu retrouves sur les murs la Master Sword, le bouclier. Ilien de Zelda. Tu retrouves la Buster Sword de Cloud. Tu as une épée qui doit être peut-être la Soul Blade ou la Soul Edge. Là,
Soul Edge, en fait.
Tu as le bouclier de Captain America. Puis tu as un bouclier avec le logo de la famille Stark. Bien sûr, de Game of Thrones. Là, pas Iron
OK,
Man,
là. OK, le loup. Là.
Tu sais, c'est. Tu arrives dans le magasin, tu fais OK.
Ça tire large.
Tout est là. Dans le même village, il y a deux kids qui courent partout qui sont à des opposés du village, qui sont Ness et Luca de Mother et de Earthbound. T'as aussi une place, un manoir qui est un peu caché dans une forêt qui s'appelle le manoir Nakomi. Puis quand t'arrives, c'est comme une espèce de forêt où est-ce que peu importe où tu vas, tu reviens sur tes pas. Je vous laisse deviner comment on fait pour trouver la sortie cachée de la forêt dans le manoir Nakomi.
Ben là, c'est Konami, là, mais.
Fait qu'il faut que tu fasses le Konami Code en montant.
Ah, oh, sacrifice!
j'ai cherché un petit peu. Oh, come on! Je parlais des Vikings tantôt là, avec le tournoi de Bejeweled. Le boss des Vikings, c'était un bonhomme de neige qui s'appelle Jon Snow. Puis quand tu le bats, ton personnage dit You know the thing, Jon Snow.
Ben oui.
Puis finalement, fuck la subtilité là, des fois, là, parce que des fois, il y avait quand même des références subtiles. Tu arrives à une place dans le jeu qui est la forêt des Sylphs, puis tu as comme quatre héros qui font la ligne pour y parler. Puis tu as Mario, Link, Ryu de Street Fighter, puis Bomberman, puis Sora de Kingdom Hearts qui sont là. De dos. Fait que tu sais, comme je pense que c'était comme assez de différence pour être correct,
safe
au niveau des copyrights, mais ils sont quand même tous là. Puis t'as un achievement pour leur parler aux 5. Bref, il y a une tonne de références, puis c'est vraiment tout le temps drôle à découvrir. Puis tu sais, je pense que, ben, désolé pour les spoilers, mais c'est ce qu'il fallait parler en parlant de ce jeu-là, parce que sinon, le gameplay, il est le fun. C'est un jeu qui est le fun à jouer. L'histoire est le fun parce que t'as le goût d'avancer. T'as pas juste le goût de jouer pour les références, mais c'est ce qui fait que tu vas le...
C'est une grosse partie de l'expérience.
C'est une grosse partie du jeu. Fait que si je conclue, voyons, c'est un jeu qui est vraiment le fun à jouer. Si on se gosse pas à essayer de ramasser les cartes puis les affaires en extra, peut-être une douzaine d'heures. Moi, j'ai mis une vingtaine d'heures parce que j'ai tourné en rond pour les cartes. Parce que,
solide.
Genre,
solide.
Le fun. Ouais, non, c'est un bon temps puis c'est pas trop non plus. C'est
que mais avec autant de variété puis de moments où tu réagis, ça peut pas être long.
T'sais. Mais non, c'est ça. Fait que, fait que moi, j'ai une vingtaine d'heures de jouer, mais bon, j'ai tourné en rond beaucoup en allant pas voir plein de reviews sur Internet. Là. Bon, à la fin, pour les trois dernières cartes, j'ai fait hey, on s'en où? Ah, OK, il faut que je chauffe. Faut que j'empêche le désastre, puis j'aille à la ville qui est en dessous du désastre pour les trouver. Et je l'aurais pas su.
Ah, OK, mange la merde.
Ben, ouais, presque. Fait que c'est ça, peut-être une douzaine d'heures. C'est quand même gérable pour un RPG, ce qui fait du bien. Fait que moi, je vais donner un 4 pattes de 10 ans à Evoland pour le fun que j'ai eu à y jouer. Mais faut que j'avoue qu'il y a deux de ces pattes-là qui reviennent pas directement, là, ils empruntaient à d'autres. Good show! Donc, on vous avait parlé de show notes au dernier cours. C'est ce qu'on appelle une déformation professionnelle, ça.
Ah, que c'est bon.
Au dernier show.
Oui.
Pas de nouveau là-dessus. Un jour, on vous les rendra disponibles d'une certaine façon. Pour l'instant, Google. Donc, si vous en avez envie, si vous pouvez nous donner un petit coup de main, vous pouvez vous rendre sur patreon.com/divanquest. Sinon, les derniers épisodes, on les retrouve sur le divanquest.com. Si vous voulez nous envoyer du feedback, du hate mail ou que ça demandait tantôt, là. D'expliquer une référence.
Ouais, c'est ça. En fait, de m'expliquer que les œuvres importantes de M. Warren Ellis. Parce
voilà.
Que...
Vous pouvez aller sur Twitter, au twitter.com/divanquest. Sur Facebook, au facebook.com/divanquest. Par courriel au divanquest@gmail.com. On peut retrouver notre podcast avec un paquet d'autres bons podcasts québécois sur le rzoweb.com, dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com. Vous pouvez aussi aller sur iTunes, commenter, cliquer les 5 petites étoiles, ça nous fait monter dans les rangs. Ça fait longtemps qu'on n'a rien eu de nouveau à lire sur iTunes. Ça nous rend plus visible, ça nous donne une porte d'entrée pour accéder à des gens qui ne l'ont pas.
Une porte d'entrée dans les oreilles des gens.
Dans les oreilles des gens. Donc, on se revoit la semaine prochaine et d'ici là...
Game on!
Game on!